Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre. Nous allons continuer notre méditation sur les qualités bibliques. Pendant que vous cherchez deuxième épître de Pierre, nous ferons la lecture ce matin du chapitre 1er, une partie. Je fais juste le rappel de ce qui a été un bref résumé de ce qui a déjà été dit. L'importance de rappeler la notion de qualité, de qualité, de qualité, c'est que la Bible nous parle de certaines qualités que nous sommes appelés à développer, à rechercher. La Bible nous parle des dons, c'est vrai, les dons de l'esprit, les dons spirituels, qui sont deux choses différentes, l'un travaillant sur notre caractère, l'autre étant pour l'édification du peuple et pour le salut. Mais il y a aussi des qualités. Le fruit de l'esprit, lui, grandira. Il sera la conséquence de notre intimité, de notre cœur à cœur avec le Seigneur. Plus nous serons proches du Seigneur, plus nous prendrons du temps d'être dans sa présence, dans la prière, et plus le fruit de l'esprit grandira. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais la Bible nous invite également à réfléchir aux qualités. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, nous avons déjà vu la semaine dernière la notion de la sagesse. Je vous laisse lire à la maison et vous relire Jacques 3, versets 3 à 18. Je voudrais juste rappeler ce matin que dans ce passage, il nous est parlé de deux sagesses. Une sagesse terrestre qui nous pousse à plein de désordres, et il définit la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse dont nous sommes appelés que nous sommes appelés à rechercher. Et cette sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà. La sagesse de quelqu'un se voit par rapport à ça. Au bon fruit, il y a cette mentalité qui se dégage de son attitude, de sa manière de dire, de parler, de faire les choses. En dehors de ça, prenez le temps de relire des versets qui entourent ce passage-là. Il est appelé cette sagesse terrestre et destructrice. Ce matin, on va avoir donc effectivement quelques qualités qui se trouvent de ce passage qu'on va lire en 2 Pierre, chapitre 1er, on va lire les 11 premiers versets. Le texte est un peu ardu, mais vous inquiétez pas, on va le débroussailler et le rendre très explicite. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, à cause de ces promesses, à cause de cette excellence, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Un texte très, très riche. Il évoque, Pierre évoque là, et on va revenir prochainement sur une idée, sur l'idée de construction. Tu peux passer la diapo d'après. Je vous ai parlé la dernière fois, j'avais déjà commencé à vous glisser quelques graines de cette image. Mais nous sommes des enfants en construction. Wow. Non, c'était bien là où t'étais. Voilà, super. Nous sommes en construction. Notre but, c'est de ressembler à qui ?
Jésus.
À Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un ici est déjà parvenu à ce résultat. Mais c'est notre aspiration. C'est la volonté aussi de Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle qu'effectivement, il y a ce que le Seigneur nous a donné, et il y a aussi une dimension d'effort. Nous sommes, avant, c'était l'image d'avant, mais qu'importe, hein, un terrain vierge, un terrain vague. Tout y poussait, et surtout les mauvaises herbes, vous avez remarqué ? Les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin de les semer, il n'y a pas besoin de les entretenir, ça vient tout seul. Et ça, c'était notre cas lorsque nous étions sans Dieu. Tout y poussait, surtout la mauvaise herbe. Et puis, nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Et là, il y a différentes étapes. Il nous parle effectivement, là, avec le verset 1, avec le verset 2, de ceux qui ont reçu la foi en connaissant Jésus-Christ. Ça, c'est la base. Rencontrer Jésus-Christ, être délivré de nos péchés, commencer une vie nouvelle, réaliser la vie éternelle. Et ça, c'est l'image de la fondation. On commence quelque chose. Celui qui rencontre le Seigneur Jésus, il ne fait que commencer une vie nouvelle. C'est une simple fondation. Et puis, on observe que du verset 2 au verset 3, nous passons de la paix à la puissance. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et verset 3, sa divine puissance. Et là, c'est une autre phase de la construction. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus, une fois qu'on a demandé pardon pour nos péchés, une fois qu'on lui a demandé de changer notre vie, et qu'il le fait, alors il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut dire, Seigneur, mais je veux de ta puissance, je veux de ton esprit. Parce que ça fait partie du développement de la vie chrétienne. Et c'est là que, de temps en temps, on peut se demander, mais j'en suis où moi dans cette dimension-là ? Est-ce que je me suis juste contenté du « merci pour la paix, merci pour le pardon de mes péchés, merci parce que je vais à l'église, merci parce que de temps en temps, quand je viens à l'église, ça me fait du bien ?» Ou est-ce que nous avons accepté de rentrer dans ce que ce texte dit entre le verset 3 et le verset 4, qui nous parle de promesses ? De promesses. Et les promesses dont il est parlé, c'est les promesses de Dieu. Les promesses qui nous associent à une relation vivante avec le Seigneur Jésus, qui nous parle de piété, qui nous parle de participer à sa nature divine. Mais bien aimé, bien souvent, on oublie que ce que Dieu nous a donné n'est pas seulement là pour nous faire du bien à nous, mais c'est une véritable puissance, une grâce pour que nous soyons en communion avec lui. Je me permets juste de rappeler quelques promesses qu'il nous a faites. Le fruit de l'esprit, les dons spirituels. Quand le texte nous parle de la gloire, il nous parle de la communion avec le Seigneur Jésus, à l'onction, la visitation de son esprit, à cette relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus, à ressentir ses sentiments, à participer à cette présence spirituelle. Il nous parle également que dans cette relation, nous pouvons avoir une communication, une relation, du discernement, des convictions qui viennent de sa part. Dans ces promesses, nous avons également la protection par les anges et la puissance sur les mauvais esprits. Nous avons tout ça. Mais qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous ? En construction, mais à quel niveau ? D'autant plus qu'effectivement, le but de Dieu, c'est que nous puissions, à notre foi, C'est ce que dit le verset 5. Ajoutez à notre foi différentes qualités. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, etc., etc. Il y a une dimension de choses que l'on reçoit. Et mais si on se contente juste des fruits de l'esprit, sans rechercher à vivre toutes les promesses, alors, comme il le dit un peu plus loin, certains parmi vous ont oublié la purification de leurs anciens péchés. C'est qu'ils ont bien connu la grâce de Dieu, ils ont bien connu les fondations, ils ont bien connu le pardon de leurs péchés, ils ont bien connu l'amour de Dieu. Mais à force d'habiter dans une maison qui n'est jamais inachevée, on finit par se lasser. Ceux qui habitent dans leur maison dans laquelle ils font des travaux, c'est dur comme c'est pénible d'habiter dans une maison en travaux. L'impression, on en a marre au bout d'un moment. Au début, on est plein d'excitation, ça va être super, ça va être beau, oh, super. Et puis après, on est lassé parce que ça n'avance pas. Le but de Dieu, c'est pas que nous soyons toujours dans la poussière, mais que nous grandissions, que nous ajoutions à la grâce de Dieu les qualités spirituelles. Alors, c'est vrai qu'à ce verset 5, il y a deux notions qui sont importantes. La notion d'effort. Faites tous vos efforts. Nous, les évangéliques, on n'aime pas trop ça. Parce que tellement on a voulu se distinguer de l'enseignement catholique qui aurait tendance à prêcher le salut par les œuvres. Alors nous, on est complètement allés dans l'autre sens. Ah mais non, il n'y a besoin de rien. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Il faut les deux. Parce que la foi sans les œuvres, ça ne vaut rien du tout. Parce que l'apôtre Paul lui-même nous demande de faire tous nos efforts. Alors oui, tout n'est que grâce pour le pardon de nos péchés. Mais tout n'est pas fait. Dieu nous donne les moyens de rentrer dans cette perspective spirituelle. Oui, à cela, oui. Ce n'est pas nous qui pouvons nous transformer, ça c'est certain. Mais le Seigneur nous a permis de recevoir cette puissance divine, le Saint-Esprit, non pas pour qu'on dise « Ah, tiens, j'ai un beau trophée, c'était en 1842, j'étais bâti dans le Saint-Esprit. » Ben oui, depuis. Mais que ce fait puisse être une puissance pour que nous grandissions et que nous continuions dans nos progrès. Donc, effectivement, n'oublions pas que notre vie n'est pas que « Seigneur, donne, et puis moi je verrai », mais qu'il y a une notion d'effort, une notion d'énergie, de dépenses, de recherche, d'organisation, de travail. La vie chrétienne est une vie de disciple. Et cette notion de joindre, d'ajouter, d'apporter quelque chose à autre chose. Et d'ailleurs, c'est même étonnant parce que tel que Pierre l'a rédigé ces quelques versets, on dirait que à une qualité, cela nous permet d'en rajouter une autre. Hein ? Faites tous vos efforts pour rejoindre à la fois la vertu, et puis à la vertu vous ajoutez la connaissance, et à la connaissance vous ajoutez de la maîtrise de soi. C'est comme si un élément s'ajoutait à un autre, comme si l'un était forcément lié à l'autre. Oui, c'est un peu comme dans une maison. Une porte, c'est pas un mur, mais quelque part, il n'y a pas besoin d'avoir, enfin, il n'y a pas de raison d'avoir une porte, il n'y a pas de mur. Et le mur est ce qui permet de maintenir la porte. Et dans notre vie, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Un aspect de notre vie permet de développer une autre qualité. Alors, Pierre commence par la foi. C'est pour ça que j'ai mis l'intitulé de la foi à l'amour. La foi et l'amour sont les deux éléments les plus importants de notre vie. Alors, effectivement, Pierre commence à nous faire réfléchir sur la base de la foi, qui est le fondement, et il finit la construction par l'amour, parce qu'on le sait, c'est le lien de la perfection. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Okay. Donc ça va vraiment être des objectifs, les qualités, tant mieux, mais si j'ai pas l'amour, ça vaut rien. Les dons, le spirituel, même si j'étais même si je guérissais tout le monde ici, si je n'ai pas l'amour, ça vaut rien. Et c'est pour ça que nous, c'est tellement important de garder là, dans notre perspective, j'ai la foi, la base de ma foi, c'est la connaissance, c'est le sacrifice de Jésus. Mais ma perspective, mon objectif ultime, ma qualité que je dois rechercher au-dessus de tout, même si le Seigneur me prive de tout le reste, même si je ne comprends pas, même si je suis en galère, même si je n'ai pas les dons spirituels, même si Dieu n'exauce pas mes prières, ce que je veux, c'est être connu pour être quelqu'un qui soit rempli d'amour. Et ça, c'est indispensable. Si nous manquons ces deux piliers-là dans notre vie, nous allons être constamment ballotté à gauche, à droite, dans le doute, dans l'incrédulité, à courir de vain gain. La foi et l'amour sont très importantes, et vous pourrez lire, je ne vais pas vous les citer, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, 1 Timothée chapitre 4 verset 15, où Paul encourage sans cesse les églises à rechercher la foi et l'amour et à faire des progrès dans ce domaine. Même à son compagnon Timothée, il y a occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. De qui ? De tous. Donc c'est-à-dire que même Paul, qui avait un collègue pasteur, il dit, tu sais, t'es pasteur, c'est bien, mais il faut que tes progrès, là, les autres doivent aussi les voir. Amen. On doit tous faire des progrès, tous. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de moi je ne suis pas capable, il n'y a pas de... On est tous des enfants de Dieu et nous avons tous la même perspective, c'est de ressembler à Jésus, de devenir des hommes et des femmes accomplis. Amen. Après, chacun devra développer les dons qu'il a pour l'édification et pour l'exhortation des autres. Alors, avant de considérer la vertu, on va prendre le temps quand même de réfléchir sur la foi. Le verset 5 nous dit de faire tous nos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Le verset qui serait le plus en adéquation avec ce verset, c'est en Jacques chapitre 2 verset 1 qui dit que la foi sans les œuvres est morte. On peut tout à fait comprendre pourquoi la première chose à laquelle Pierre nous demande de joindre la foi, c'est la vertu, parce que ce sont les œuvres. Mais effectivement, revoyons quand même, il ne parle pas de la foi, et là tu peux passer à la diapo d'après s'il te plaît. Il ne parle pas de la foi, il parle de notre foi, de votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il y a une différence entre la foi et notre foi. Le monde parle de la foi. Et là-dedans, eh ben c'est un sacré bazar. Hein ? On y met tout là-dedans. Les croyances, les superstitions, la manière de faire. L'essentiel, c'est d'avoir la foi. Bon, alors on ne sait pas trop d'ailleurs de quoi il parle à ce moment-là, parce que si l'essentiel, c'est d'avoir la foi, c'est quoi ? Ce n'est pas une simple pensée, avoir la foi. Et la Bible ne nous parle pas de la foi comme ça. Il nous parle de la foi, de notre foi, qui est une relation à Jésus-Christ. Notre question n'est pas une question de vagabondage d'esprit, mais d'une rencontre, de quelque chose qui transforme. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette illustration ? Parce que je crois que c'est la meilleure illustration de ce que l'on peut parler entre un chrétien qui n'a pas connu le Seigneur, qui le rencontre et qui devient une nouvelle créature. La foi, c'est pas une simple adhésion intellectuelle. Mais c'est la transformation de notre intelligence, comme dit Romains 12. Je n'ai pas seulement adhéré, oh, c'est sympa, mais il faut que notre intelligence soit renouvelée, transformée. Notre foi, ce n'est pas un simple sentiment passager. Ah, ça me fait du bien, je suis bien ici, il y a quelque chose qui se passe. Non, notre foi nous amène à avoir en nous les sentiments qu'ils ont en Jésus-Christ, comme il est demandé en Philippiens chapitre 2 verset 5. C'est pas juste là, oh je le sens bien, mais il faut que nos sentiments soient transformés. Notre foi n'est pas une amélioration de notre personne. Vous savez, il y a beaucoup de religions dans lesquelles, oh ben ouais, moi j'étais un drogué, maintenant je suis plus un drogué. Avant, vous savez, moi avant je battais ma femme, mais maintenant je bats plus ma femme. Ah oui, vous savez, avant j'allais dans les bars, mais maintenant je vais plus dans les bars. Il y a plein de religions qui ont ce genre de publicité. Mais l'évangile, ce n'est pas une amélioration de la personne, c'est une transformation de la personne. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il faut vraiment que nous réalisions que notre foi, c'est une puissance qui nous a bouleversés, esprit, âme, corps, dans notre intelligence, dans nos sentiments, dans notre mentalité d'être. Comme je disais tout à l'heure, cette expérience, cette rencontre avec le Seigneur Jésus, ne doit pas rester une sorte d'un événement qui s'est passé. Ah, je suis passé par les eaux du baptême, je me rappelle, c'était le pasteur untel, il est déjà mort depuis 30 ans. Dans l'Ancien Testament, lorsque les patriarches faisaient une expérience forte avec Dieu, ils construisaient des autels. C'est-à-dire qu'ils mettaient des cailloux. Ils donnaient un nom. Ils disaient, voilà, ça c'est le Dieu de la révélation, c'est le Dieu qui m'a parlé, c'est le Dieu qui a pourvu. Voilà, et ponctuellement, comme ça, dans la vie des patriarches, chaque fois qu'ils avaient une vision où Dieu leur parlait, alors ils construisaient un autel, un amas de pierres. Et puis il partait. Et chaque fois qu'il revenait là, il se rappelait de cette expérience-là. Avec Jésus-Christ, il n'est plus parlé d'autel. Lorsque Christ est mort à la croix, il nous dit que c'est le voile qui se trouvait dans le temple qui a été déchiré du haut vers le bas. Amen. Et ce voile déchiré représente pour nous l'accès direct à notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes plus et nous ne devons pas être des chrétiens qui avons notre vie jalonnée d'expériences comme ça, une fois de temps en temps. En 1802, en 1803, en 95. Mais notre relation, notre foi, c'est ce voile qui est déchiré. Notre foi, c'est cette relation constante avec le Seigneur Jésus. Notre foi, c'est cette puissance que Dieu nous a donnée afin d'être rendu participant de sa nature divine. Et pas pour un jour, pas pour deux jours, mais dans le quotidien. C'est ça notre foi. Si notre foi n'est qu'une religion, alors ce n'est pas notre foi, c'est une foi. Et d'ailleurs, quelque part, Paul dit, cette foi-là ne nous sauve pas. Il y a des fois qui sauvent, il y a une fois qui sauve, et il y a des fois comme ça. Mais notre foi, c'est cette relation. C'est cette relation qui influence notre quotidien. Notre foi, c'est cette puissance qui fait que nos pensées, nos paroles et nos actions sont forcément influencées de cette expérience qui a commencé un jour et qui se renouvelle chaque jour, non? Un papillon n'a jamais été toujours papillon, on est d'accord? Mais une fois qu'il est devenu papillon, il ne peut pas redevenir chenille en principe. Soit il meurt, ou il vit. Et pour nous chrétiens, c'est pareil. On peut pas dire, oh, avant je connaissais le Seigneur, mais maintenant c'est plus pareil. Si c'est plus pareil maintenant, c'est que tu es en train de mourir. Et c'est ce que dit Pierre. Certains ont mis en oubli. Si vous continuez comme ça, si vous recherchez, alors oui, effectivement, vous grandirez, vous serez abondant, il y aura de l'abondance dans votre vie, mais sinon. Et nous devons réfléchir où est-ce que nous en sommes dans notre construction de maison, dans notre construction à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce que ma foi est cette relation? Est-ce que ma foi, c'est cette communion avec le Seigneur? Est-ce que ma foi, c'est cette puissance qui me fait goûter à toutes ces promesses spirituelles? Non seulement nos actes, nos paroles, nos pensées doivent être inspirées de cette foi, mais allons plus loin. Nos actes, nos paroles, nos manières de penser devraient même interpeller les gens de dehors. Parce que nous ne sommes pas comme les autres, quand même, on est un peu bizarre. En tout cas, on doit faire une différence. Mais nous verrons cela tout à l'heure. D'où cette phrase de Pierre. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Parce que si réellement cette foi, elle est ce qu'on vient de décrire, et pour plusieurs d'entre nous, nous l'avons expérimenté. Alors effectivement, il faut que cette foi se transforme en action. Et ce n'est pas seulement le mot action qu'effectivement que Pierre a choisi, c'est le mot vertu. Alors, comment définir la vertu? J'ai pris le dictionnaire. Et dans le Larousse, il est écrit que la vertu, c'est la disposition constante précision importante, qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Et là, quand on est enfant de Dieu et qu'on sait l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on dit, bah oui, c'est complètement ça. C'est vrai. C'est vrai que le Seigneur nous pousse normalement à toujours rechercher à faire le bien. C'est à faire le bien, c'est pas seulement dire, oh, ça c'est bien. On est capable de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais la disposition, la vertu, c'est la disposition à vouloir le faire et à éviter le mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il était écrit aussi. La religion pure et sans tâche, c'est d'assister les veuves, les orphelins et puis de s'éloigner de la corruption du monde. Donc c'est complètement cette notion-là. C'est une disposition constante. Seigneur, fais-moi grâce. Constante. Une disposition. La vertu, c'est un état de cœur, c'est une mentalité. C'est quelque chose qui habite en nous et qui nous porte à l'action. En fait, en définissant les caractéristiques de la foi, si on a dit que la foi doit être jointe, si la vertu est jointe à la foi, c'est que la vertu doit être imprégnée de la mentalité de la foi. Alors j'ai voulu juste rappeler quatre caractéristiques de notre foi. De notre foi qui est fondée sur l'œuvre de Jésus. De notre foi qui est fondée sur ce que le Seigneur nous a accordé à la croix. Ce qui caractérise notre foi, c'est le pardon de nos péchés. C'est le premier point. Alors si le Seigneur nous a pardonné, nous devrions avoir la disposition à pardonner. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. C'est une honte. Et c'est un défaveur que d'entendre des enfants de Dieu avoir des querelles, des conflits. Bien souvent pour des sujets d'enfantillage. Un enfant de Dieu a la disposition de cœur au pardon. Quand bien même est-ce qu'il serait dans son bon droit et qu'on lui marche sur le pied, il doit pardonner. Quand bien même est-ce qu'il est dans sa légitimité et même s'il se sent blessé, il doit dans son cœur avoir la disposition de cœur au pardon. Il n'est pas question là de... Et là, c'est là qu'on le comprend, que Pierre nous demande de faire tous nos efforts. Ah, là on commence, ah oui, d'accord. Ah oui, Dieu, tu m'as pardonné, ça c'est gratuit, ça je l'ai reçu, ça c'est donné. Et bien si tu as donné comme ça, si tu as reçu, et bien toi, maintenant tu dois faire tous tes efforts pour transformer cette foi en une vertu. Et c'est à toi de communiquer ce pardon. C'est à toi de faire ces efforts. C'est à toi de prendre sur toi. C'est à toi de fermer la bouche. Et dans ton cœur, d'avoir cette disposition spontanée, constante, à dire, Seigneur, je veux aussi apprendre à pardonner. Je veux retirer de ma vie toute forme de conflit, toutes ces bagarres, toutes ces disputes stériles. Dieu nous a donné, nous est-il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous l'a donné. Nous devons être des hommes et des femmes de réconciliation, de paix. Rappelez-vous de ce qui avait été dit dans la sagesse d'en haut, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Nous sommes appelés par notre foi à être des hommes accueillants, disponibles, pleins de sagesse, de miséricorde. Et les gens du monde devraient voir ça en nous pour qu'effectivement ils disent mais pourquoi t'es comme ça toi? Pourquoi toi t'es... Tant on croirait que chaque fois qu'on t'insulte, ça te fait rien. Si, ça me fait quelque chose. Mais je te pardonne à chaque fois. Mais c'est ça le témoignage de Jésus. Si un chrétien se comporte comme un homme du monde, mais elle est où sa foi? Si on a les mêmes réactions que les gens du monde, elle est où notre foi? On va dire quoi au monde? Est-ce que le monde vous pardonne? Ils ne vous pardonnent rien du tout. Ils sont capables de vous garder un beau sourire, ça je ne dis pas. Mais ils ne vont pas pardonner. Et ils seront bien capables de vous retourner la flèche au moment favorable. Mais nous, nous ne sommes pas de cette mentalité-là. Nous sommes des ouvriers, des ministres de réconciliation, des ouvriers de paix, des hommes et des femmes qui doivent semer la paix tout autour de nous, même si cela doit nous coûter et perdre de notre prestige, de notre gloire ou de notre orgueil. Qu'est-ce qui caractérise notre foi? Mais la délivrance de nos péchés. Quand la Bible nous parle de liberté, c'est de liberté par rapport au péché. Certains, ils prennent la liberté en Jésus-Christ pour faire n'importe quoi, c'est pas ça. Quand la Bible nous parle de liberté, c'est qu'on est libre par rapport au péché. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave. On a la possibilité de dire oui au péché, mais on a aussi la liberté de dire non. On est libre, libre de faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut un effort. Parce que vous avez vu comme la tentation est là. Il faut un effort pour refuser le péché. Il vient toujours avec son désir. Et puis surtout, il prend bien un angle de notre côté qui reste encore sensible à la chose. Mais c'est normal ça, c'est normal. Il n'y a pas non plus la question de se remettre en cause. Oh, je suis un mauvais chrétien, je suis encore tenté. C'est tout à fait normal d'être tenté. C'est que vous êtes encore sur terre. Mais, si la seconde caractéristique de notre foi, c'est la délivrance de nos péchés, c'est-à-dire que notre disposition de cœur doit être celle de la sainteté, de la pureté. Il y a des chrétiens qui se fanent. Vous savez ce que c'est, se faner. Il y a des chrétiens qui se fanent parce qu'ils flirtent avec le péché. Des chrétiens qui perdent leur vie spirituelle, leur zèle, parce qu'ils flirtent, ils cautionnent, ils font main d'association, ils ne se détournent pas du péché. Ne nous leurrons pas, mes bien-aimés. Les problèmes, ça existe. Les soucis, ça existe, la maladie, ça existe, les contraintes, ça existe, la fatigue, ça existe, la maladie, ça existe, tout ça, je suis d'accord. Mais la seule chose qui peut toucher la divine puissance, c'est le péché. Et si dans nos vies, nous sommes en chute libre, ce n'est pas à cause des circonstances, c'est à cause du péché. Notre disposition de cœur, suite à notre foi, doit être poussée à la sainteté, à la pureté. Soyons des hommes, soyons des femmes intègres, droites, justes, loyales. C'est une honte que d'entendre des enfants de Dieu avec des dettes qui ne sont pas réglées, avec des systèmes d'argent qui n'ont pas réglés, avec des problèmes d'alcool ou de violence, d'adultère, de mensonges, de paroles grossières, insultantes, racistes. J'ai mis tout ça, j'ai mis trois petits points parce qu'il me manquait un peu d'imagination. Mais lisez chez vous le psaume 15. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui rentrera dans sa montagne, dans sa présence? Celui qui est intègre, celui qui est droit, celui qui est juste, celui qui accepte même de perdre de son avantage afin de laisser la justice régner, celui qui ne s'associe pas avec les méchants, mais au contraire, il en a horreur. Lisez le psaume 15, il n'est pas parlé de dons spirituels, il n'est pas parlé d'exploits, il n'est pas parlé de choses, il est parlé d'intégrité de cœur. Cette intégrité qui se voit dans notre manière de parler, de vivre, de nous comporter à l'égard des gens. C'est une honte quand, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont troubles, où on flirte avec l'impudicité, avec le mensonge, avec la médisance. Je ne dis pas que ces choses ne peuvent pas arriver. Je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas tomber dans l'adultère ou dans l'alcool ou dans des travers. Ça arrive à tout le monde de chuter. Et je pense que si je devais être plus dur en parole, ce serait peut-être moi le premier exposé pour m'apprendre la leçon. Il est possible que le chrétien tombe. Il est possible. Quand je parle de honte, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'entorse, mais c'est une honte quand le chrétien décide de rester dans son péché. Quand il commence à s'habituer à son mensonge, à sa manière de faire, quand il commence là à s'acoquiner avec ses manières qui ne sont pas droites, à être double, à être double jeu, double parole. Là, c'est une honte. Les erreurs, on en fait tous. Et le Seigneur a dit que si, chaque fois que le juste tombe, toujours l'Éternel le relève. Amen. Il suffit de confesser nos péchés, d'être un devant le Seigneur, de compter sur sa grâce, de souhaiter aller plus loin. Et le Seigneur est toujours là pour nous aider. Mais là, c'est une honte quand on demeure dans notre péché et qu'on le cache et qu'on le couconne et qu'on veut faire croire à une autre réalité. Je crois qu'en tant que chrétien, nous devrions, par honneur, essayer même de comprendre le mot que je veux employer, mais par fierté, à celui à qui on appartient, d'être des hommes et des femmes droits, justes. Il n'est pas parlé de prendre les autres au-dessus, il n'est pas question de croire que nous on est meilleurs que les autres, absolument pas, ça c'est de l'orgueil. Mais parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que le Seigneur est mort à ma place, parce que je représente le plus beau des messages, le message du salut, alors je veux que ma vie soit au reflet de ce message-là. Il y a des professions telles que les médecins qui ont le serment d'Hippocrate, dans lequel ils ont un code moral, un code de conduite, afin que leur profession ne soit pas méprisée. Et il y a des sports, le judo. Le judo a une charte morale. Parce qu'ils ne veulent pas que le comportement d'un judoka puisse entacher la noble tâche qu'il représente, le judo. Mais nous représentons qui, nous? Un métier? Un sport? Nous représentons le roi des rois, mes bien-aimés. Et les gens jugeront le roi des rois par rapport à notre comportement. Si nous ne sommes pas intègres, c'est notre Dieu qui va être giflé. Si nous sommes menteurs, hypocrites, c'est notre Dieu qui sera bafoué. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, dit 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, bah oui, ils se moquent de nous, comme si nous étions des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. D'où est là qu'on comprend pourquoi la foi doit être associée à la vertu. Non seulement parce que la vertu doit refléter la foi, mais parce que par notre vertu, par notre manière d'être, par notre bonne conduite, par notre attitude, par notre bonne disposition de cœur, les gens seront interpellés par notre foi. Et là, ils verront la différence. Dis, toi, t'es pas comme les autres. J'en ai connu d'autres qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais toi, c'est bizarre, toi. Toi, quand tu me parles de Dieu, on sent qu'il y a quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce, amen. Deux autres points, je serai très court. Notre foi, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Mais l'espérance de la vie éternelle, amen. Cette espérance, cette vie éternelle, cette grâce, nous sommes aux petits appelés à avoir cette même disposition. Nous devons être des hommes et des femmes d'espérance, d'encouragement. Là où nous sommes, nous ne devrions pas être associés à la critique, à la calomnie, aux paroles équivoques, à ces choses blessantes. Vous savez qu'on a une possibilité, c'est de nous taire. C'est possible, hein? On n'est pas toujours obligé. C'est vrai qu'il y a des fois, on ne peut pas sortir de table, on peut pas se dégager. Et ce que l'on peut faire, c'est se taire. Et on peut dire, excuse-moi, j'ai pas envie de m'associer à ce que tu es en train de dire. On a le droit de dire ça. Une disposition à faire le bien et à éviter le mal. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes au bénéfice de l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes appelés sur cette terre à communiquer cette espérance, à communiquer l'encouragement, à communiquer la grâce. Notre foi est fondée, ce sera notre dernier point. J'ai voulu vraiment prendre les points les plus essentiels, mais incontournables. Notre foi est fondée sur la conscience du sacrifice. Si nous sommes là, c'est parce que Christ a accepté d'aller mourir à la croix à notre place. Il y en a un qui a accepté. Notre disposition de cœur doit être également celui du sacrifice, du renoncement, de l'abnégation. Parce que l'image, j'ai peut-être oublié de... Ouais, c'est ça. Notre disposition doit être celle de considérer que si Christ a pris ma place, mais ma foi doit être au reflet de cette foi qui vit en moi. Comment pourrais-je continuer à rester quelqu'un d'inopérant, d'égoïste, sans considérer le besoin des autres, alors que ma foi, elle est fondée là-dessus? J'ai la foi parce que je crois en un Dieu qui a pris ma place, qui est mort pour moi, qui s'est substitué à ma misère. Notre foi, notre compréhension de ce sacrifice ne se vérifiera que dans notre propre conduite, On ne peut pas dire, oh, c'est formidable comme vient le Seigneur, il s'est dévoué pour nous, mais si nous, on ne se dévoue pas pour les autres, c'est que... C'est juste rester à un point de vue intellectuel. Et pas de transformation, ni de nos sentiments, ni de notre pensée, ni de nos caractères. Alors, nous continuerons. La question ce soir n'est pas de se dire, est-ce que je suis parfait? Non, c'était bien. Oui, c'est la même image qui revient. Et se dire, où est-ce que j'en suis dans ma construction? Est-ce que j'ai peut-être besoin de revenir à la fondation? Est-ce que j'ai pas envie que ma vie spirituelle aille plus loin? Est-ce que je veux être là, m'endormir, m'ennuyer dans ma vie? Ça fait tellement d'années que j'ai l'impression que je tourne en rond. Ben oui, mais... Et si on acceptait de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu? Que ma vie parle de ma foi. Que ma vie soit véritablement le parfum de cette grâce qui s'est déposée dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Je crois que le Seigneur nous aidera. Si nous faisons, et Pierre ne le cache pas, tous nos efforts, et ça on n'aime pas. On n'aime pas faire des efforts. Mais si nous voulons grandir dans nos vies spirituelles, si nous on a envie d'aller plus loin, il va falloir qu'on les fasse, ces efforts. Sinon, nous allons continuer à tourner en rond. Mais il y a de magnifiques promesses qui sont associées à cette vie spirituelle. Amen.